qu'on expliquait la semaine dernière, à la référence numéro, dans la page numéro 1, le thème du cours d'aujourd'hui, c'est l'Aube HaShemayimi, la Torah n'est pas dans le ciel. D'accord? Donc, on avait amené une première Gemara, la Gemara qui est très connue, l'histoire du four de Arnaï, vous vous rappelez? L'histoire du four de Arnaï. On avait dit que, justement, il y avait une machloka entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Rabbi Eliezer avait fait plusieurs tours de force pour essayer de prouver qu'il avait raison. Hein, il a dit, bon, comme on a expliqué la semaine dernière, que le caroubier se déplace, etc., etc., etc. D'accord? Et finalement, il y a une voix qui est sortie, une voix qui est sortie du ciel qui a dit, qu'est-ce que vous voulez à Rabbi Eliezer que la halakha est toujours comme vous. Laissez-le tranquille. Et pourtant, Rabbi Yeshua s'est levé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, lo bashamaim hi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, la Torah ne se trouve pas dans le ciel. C'est ce qu'on a expliqué. D'accord? Donc, on a raconté l'histoire longuement avec tous les détails. Ensuite, on a amené une autre Gemara, dans le traité Eruvin, en bas de la page, dans lequel on nous a raconté qu'il y a eu Beth Shammai et Beth Hillel qui étaient en machloket pendant 3 ans. Et qu'on n'arrivait pas à savoir quelle halakha était comme qui. Et qu'il y a une voix qui est sortie du ciel qui a dit, les deux disent vrai, et la halakha est comme Beth Hillel. Et c'est sur cette voix qu'on se base pour dire que la halakha est comme Beth Hillel. D'accord? Donc, Tosfot a posé une question ici, et a dit, a priori, ça forme une contradiction. On vient d'expliquer dans la première Gemara que quoi? Rabbi Yeshua a dit, même si le ciel nous dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer, la halakha ne sera pas comme Rabbi Eliezer. Oui? Alors que dans le sens de Beth Shammai et Beth Hillel, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la halakha était tranchée, comme Beth Hillel, sur la base d'une bat kol, une voix qui sort du ciel. Donc, est-ce qu'il faut faire attention aux voix qui sortent du ciel ou pas?
Oui, mais il y a une autre question encore là,
Oui?
dans le texte. C'est que comment on peut dire toi et toi, tu as raison, mais la halakha, elle est comme.
Alors, ça en a expliqué, hein, ça en a expliqué que ça veut dire que les deux ont raison dans l'absolu, c'est pour ça que quand Machar viendra à la halakha sera comme Beth Shammai, comme il explique la Rizal, mais dans l'état actuel des choses, dans le ciel, on a décidé que la halakha est comme Beth Hillel.
Donc la différence mathématique, c'est que dans le premier cas, ça n'a pas été dit que les deux ont raison.
Si. Ah,
Dans
si.
le premier cas,
C'est
on a dit,
vrai.
Eliezer, il a raison.
Alors,
Et
c'est sur
donc vous
quoi?
avez tort.
Alors, au contraire.
Alors que dans le
Alors,
deuxième, il y a
plus
écrit, vous avez tous les deux
à
raison.
plus forte raison.
Il y a un engagement qui est différent là,
Bah, la
vis-à-vis
plupart
du
de
ciel.
raison.
Le ciel, il a même pris parti.
Si, déjà, là-bas, on a dit que quand les deux avaient raison et que la halakha est comme Beth Hillel, on a accepté que la halakha est comme Beth Hillel. À plus forte raison que là, le ciel a pris carrément position pour Rabbi Eliezer, c'est sûr que la halakha devrait être comme Rabbi Eliezer.
Oui, mais à plus forte raison que si on dit que la Torah n'est pas au ciel et que c'est pas au ciel de décider,
Non,
mais à une majorité humaine.
soit il y a une question plus simple. Il ne rentre pas dans cette complication. Soit il dit, je comprends pas. C'est soit on fait attention à une voix qui sort du ciel, soit on fait pas attention. Il rentre pas dans ces complications-là. Dans la première Gemara, tu m'as dit, Rabbi Yeshua a dit, la Torah n'est pas dans le ciel, on ne fait pas attention à une voix qui sort du ciel. Donc point à la ligne, on s'arrête ici. Après, il y a une autre Gemara dans laquelle apparemment, quand tu es une marque entre Beth Hillel et Beth Shammai, tu donnes de l'importance à la voix qui sort du ciel. Non?
Peut-être parce que dans le deuxième cas, dans le deuxième cas, c'était un avis qui a fait pencher une chose qui
Alors,
était
ça c'est
une
la réponse de
balance,
Tosfot. Ça c'est la
une
réponse. Ça c'est la
balance.
réponse. Tosfot donne deux réponses. Première réponse, il donne Tosfot. Il dit qu'en vérité, Beth Hillel était déjà majoritaire. Donc la halakha, juridiquement, était déjà comme eux. Seulement, quel problème on avait? On a expliqué que le problème qu'on avait, c'est que Beth Shammai était plus pertinent, était plus vif. Donc c'est pour ça qu'on avait un doute. D'accord? Donc
Une
finalement, le ciel est
confirmation.
venu seulement pour nous rassurer. Mais bon, t'inquiète pas, tu peux y aller. Donc là, tout ça t'explique. Le ciel ne peut pas trancher une halakha, mais il peut nous rassurer sur quelque chose. Vous voyez?
D'accord.
C'est-à-dire que juridiquement, la halakha était déjà comme Beth Hillel, mais on a besoin de nous rassurer. C'est une première réponse. Deuxième réponse de Tosfot, c'est qu'il dit qu'en vérité, et ça, on va rejoindre un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'en vérité, on doit dire que dans la première histoire, le ciel n'a pris position seulement par le kavod de Rabbi Eliezer. Tu veux? Mais qu'en vérité, ça ne voulait pas dire que le ciel pensait que la halakha était comme Rabbi Eliezer. Seulement, comme Rabbi Eliezer a dit, que le ciel dise ce qu'il pense, par kavod, on a dit que la halakha est comme lui. Mais tout en sachant que de toutes les façons, la halakha, au final, dans l'absolu, ne sera pas fixée comme lui. D'accord? Donc, on apprend une deuxième chose, que des fois, le ciel va parler, mais qu'il ne faut pas faire attention forcément à ce qu'il dit. Eh ben oui.
Oui, tu dis n'importe quoi là-haut, quoi,
Non, c'est pas
là.
qu'il dit n'importe quoi. C'est que des fois, c'est comme des fois je dis quelque chose, mais je prends en considération que celui qui va l'entendre, il va comprendre différemment. Donc là, tu donnes une deuxième réponse à ça. Il dit peut-être que le ciel s'est exprimé seulement pour le kavod de Rabbi Eliezer, tout en sachant que de toutes les façons, les Chachamim n'accepteront pas, et donc de toutes les façons, il n'y aura pas d'implication à la règle.
Principe des Zendek.
D'accord? Extraordinaire. Bon. Ça, c'est la vie de Tessot. Donc, on apprend quelque chose d'important quand même, ce qu'on a expliqué la semaine dernière. On vient d'apprendre que une voix qui sort du ciel peut servir soit à nous rassurer, ou soit carrément elle sert à rien, et que carrément on, ça sert à rien de l'écouter, puisqu'elle est venue pour un autre rôle, par exemple pour rassurer Rabbi Eliezer, ou pour le Kavod, etc. Mais pas du tout pour, pas du tout pour trancher une halakha. Ça, c'est l'avis de Tosfot, qui est un Rishon. On va passer à la page numéro 2. Vous l'avez normalement, page numéro 2. La page numéro 2, donc on va lire ensemble le Rambam. D'accord ? On va lire ensemble le Rambam, on va étudier ensemble le Rambam, Maïmonide, donc les lois des fondements de la Torah. Et c'est intéressant parce qu'on va voir que lui, il a complètement une autre manière de voir les choses. D'accord ? Alors, Imken, on va reprendre depuis le début, on va lire toute la page. C'est Maïmonide, hein, ça se lit facilement, c'est ça. Après, on aura le commentaire du Kesef Mishneh autour de Maïmonide. D'accord ?
Tu me fais un commentaire du commentaire.
Eh bien oui. Alors, il dit comme ça, il dit Imken, si c'est comme ça, hein, là, Manevar Batorah, Navi Akim la Mikerevachem Kamocha, Velatatit Varai Befi, Vediber Alem Adasharat Savenu. Dit, parce que Maïmonide vient d'expliquer juste avant que quoi, hein. Il a expliqué que la Torah a été, nous a été donnée directement par Moshe Rabbeinu, etc., et que c'est Akadosh Baruch Hu, et que finalement le prophète a une marge très limitée. Alors il pose la question, il dit, dans ce cas-là, hein, qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah nous dit que Dieu il dit, je vous amènerai un prophète, d'accord, et que je mettrai ma parole dans la bouche du prophète, et qu'il vous parlera tout ce que je lui ordonnerai. Donc finalement, s'il nous dit tout ce qu'il va ordonner, bah, ça fait savoir forcément qu'il va être capable de nous donner de nouvelles mitzvot. C'est comme ça qu'on devrait comprendre. Dit Maïmonide, lo la sodot uba. Il ne vient pas pour faire une date, pour faire une religion. Le prophète ne peut pas créer une nouvelle religion. D'accord ? Et là, les tzavot al divrei Torah, il ne peut venir seulement pour nous ordonner sur des paroles de la Torah, ça veut dire pour nous essayer de nous encourager à faire des divrei Torah. Ou les Aziraham, chez le Yavdou Aléa, chez le Yavro Aléa, et pour faire attention, pour donc donner une injonction au peuple de faire attention davantage à ne pas transgresser des mitzvot de la Torah. C'est ça le rôle d'un prophète. D'accord ? Encore une fois. Explique Maïmonide, le rôle numéro 1 d'un prophète, c'est quoi ? C'est pas de rajouter des nouvelles mitzvot ou d'enlever d'Averot. C'est pas ça le rôle du prophète. Le rôle du prophète, c'est soit d'encourager l'homme Israël à faire une mitzvah, du style, j'ai reçu un message de Dieu qui a dit que si vous allez faire attention, vous allez recevoir ça et ça, ou bien de nous faire peur. De nous dire, j'ai reçu un message de Dieu qui a dit, si vous vous calmez pas, je détruirai la ville. D'accord? Donc, c'est finalement, c'est quoi le rôle du prophète? C'est une marche qui est très limitée. C'est uniquement pour encourager ou décourager le peuple. Encourager pour une mitzvah et décourager une mitzvah.
Expliquer.
Ou expliquer.
D'accord.
Alors, expliquer, c'est déjà plus le rôle d'un chacham.
Oui.
D'accord? Le Navi a plus un rôle, on va dire, de prosélytisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il c'est pas un rôle d'explication. Il a plus un rôle de,
il va prendre garde aussi.
Oui, les deux. Donc, soit encourager le Ham Israël à faire Torah mitzvot, à faire une certaine mitzvah, soit les décourager à faire une avera. D'accord? Kmo shamar acharon shebahem, zichut Torah Moshe Avdi. Ainsi, qu'on a un exemple, le dernier prophète qu'on a connu, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi la dernière chose qu'il a dit? Zichut Torah Moshe Avdi, souvenez-vous de la Torah de Moshe, d'accord? Mon serviteur. Bien sûr, il parle au nom de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le rôle d'un prophète, c'est quoi? C'est uniquement pour nous aider à nous souvenir de la Torah de Moshe. Vechen, pareil. Im tivanu. Mais divrei hareshut. Maintenant, c'est possible que le prophète va nous donner un ordre dans ce qu'on appelle divrei hareshut, c'est-à-dire dans les choses facultatives. Kigon, par exemple, l'echou le makom ploni. Le prophète va nous dire, allez dans tel endroit. Toute la ville doit déménager. Oh, al selchou. Ou bien le prophète dit, n'allez pas là-bas. Ni il y a une mitzvah, ni il y a une avera. Ce qu'on appelle divrei hareshut, c'est facultatif. Ou bien, un autre exemple, asu milchama ayom ou al tasu.
Pas si factif que ça, puisque c'est un ordre du prophète.
Alors voilà. Oui, mais ce n'est pas lié à une mitzvah, une avéra. Donc, par exemple, il dit faites une guerre ou ne faites pas de guerre. Faites la guerre aujourd'hui, ne faites pas la guerre. C'est pas factif. C'est-à-dire, si on veut, on peut la faire, mais c'est pas lié à une mitzvah ou une avéra. Banu chomazo o altivnoa. Construisez cette muraille ou ne la construisez pas. Alors, c'est intéressant parce que Maïmonide, il reprend des exemples qui sont
bien
déjà
sûr.
Arrivés.
Bah oui.
Bah, d'accord.
Faut que ça tienne debout.
Construisez cette muraille, ne construisez pas, ou bien. Faites cette guerre aujourd'hui, ne la faites pas, allez là-bas, n'allez pas là-bas, c'est des exemples qu'on retrouve dans le Nard. D'accord, c'est des exemples qu'on retrouve dans le Nard.
Shaoul, il disait, d'accord, on va pas.
Telle muraille, pas telle muraille, ça veut dire que finalement, le prophète avait un rôle pratiquement politique.
Oui, c'était d'accord un terminal de...
Ah oui, mais, c'est-à-dire que c'est pas seulement un rôle religieux, ce que va nous apprendre Maïmonide, c'est que finalement, le prophète peut avoir un rôle politique, parce que qu'est-ce qu'il nous dit? Dans ce cas-là, mitzvah lishmo alo, on a une mitzvah de l'écouter.
Même s'il va contre les paroles du roi.
Non. Pas sûr.
Du roi, on a dit.
Il faut pas qu'il aille à l'encontre d'une mitzvah de la Torah.
D'accord. Donc il peut aller contre un roi.
Donc le prophète peut aller, peut donner un ordre à un roi, oui.
D'accord.
C'est-à-dire que finalement, ce qu'on comprend de Maïmonide, c'est que le prophète a très peu de marge dans le religieux, mais il a beaucoup de marge dans le politique, si on va traduire ça en termes modernes. On est d'accord? Dans le religieux, il a très peu de termes, il a très peu de marge, c'est-à-dire que bon, sa seule marge, c'est d'encourager ou de décourager, donc d'encourager pour une mitzvah, de décourager pour une avéra, et dans le politique, il a beaucoup plus de marge, il peut donner des ordres qui sont... Et qu'est-ce qui se passe si on transgresse cet ordre? Par exemple, le prophète, il dit, construisez la muraille, le roi dit, non, je vous écoute pas.
Là, on va avoir immédiatement là.
D'accord. Non.
On va savoir qu'est-ce qui.
Il menace pas. Non, il menace
oui,
pas.
Oui, mais
il
dit... c'était pour notre bien. D'accord. On va bien voir que si on l'a.
Alors
pas
qu'est-ce qu'il
fait,
dit? Qu'est-ce qu'il dit? Chayav mita bidei shamayim. Une personne qui que le prophète le donnait un ordre.
Il faut obéir au Dieu.
D'accord. Et qui n'écoute pas le prophète, il est chayav mita bidei shamayim. Il serait même par le ciel. Shenema comme c'est écrit. Vaya aish asher lo ishma al divrei al devarei asher devar bishmi. Dieu dit celui qui n'écoutera pas mes paroles, les paroles que le prophète parlera en mon nom, anochi edrosh mimo, c'est moi qui m'occuperai de lui.
Quand tu dis que,
David Shemaim,
pas de tribunal humain.
D'accord. Bon.
Perso.
Donc on a pris une première. Donc ça c'est la halakha bet. On est dans le chapitre 9 de Maïmonide. D'accord. Chapitre 9 de Maïmonide. Dans la Hilchot Issei Torah, les lois des fondements de la Torah. Et qu'est-ce qu'on a appris? On a appris quelque chose de très important. On a appris que le prophète a très peu de marge sur le religieux. D'accord. Et la seule marche qu'il a, c'est sur le politique, c'est ce qu'on a expliqué.
Mais lui-même, il écoute une bad call.
Bien sûr. Mais finalement, on a expliqué que même cette bad call, même s'il a une voix qui vient du ciel et qui lui dit « Dis-leur, Shabbat, c'est fini. »
Oui.
C'est pas un menteur.
Mais s'il y a une voix qui dit « Shabbat, c'est pas fini. »
D'accord.
Qu'est-ce qu'on fait?
Non, quand j'ai Shabbat, c'est fini, c'est-à-dire que la mitzvah n'existe plus.
Oui, ah. Non, moi j'avais carrément compris, Shabbat c'est fini, il est 3h de l'après-midi, il y a oui. Encore le soleil.
Non, ou bien par exemple, il va nous dire, le Shabbat dorénavant va durer 2 jours, au lieu d'un jour. Ou bien le Shabbat dorénavant, au lieu d'être le samedi, il sera le vendredi. D'accord?
Comme ils ont fait les autres.
Il peut pas. Il peut pas.
D'accord. Oui, on peut pas intervenir.
On peut pas changer. Pardon. Encore une fois, il peut nous encourager.
D'accord.
Il peut nous décourager. Mais alors on verra après qu'il y a des exceptions quand même.
Attention, bah oui,
on va y arriver.
Machins,
vous comprenez pourquoi on étudie ça maintenant? Parce que ça a un impact direct avec l'histoire de la bad call.
Oui. Parce que c'est comme ça que ça se passe aussi.
Bien sûr. Alors, Alakha Gimel, Vechen, pareil. Navi Shavar al Divrei Atzmo. Un prophète, il transgresse ses propres paroles. D'accord. Enfin, puis il dit par exemple, non. N'allez pas là-bas.
Non. La ville va être détruite.
Non.
Ah, d'accord. Et moi j'y vais.
Voilà,
d'accord.
Moi j'y vais.
Ouais, d'accord.
D'accord, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Ou bien, Vechen Nebuato. Ou bien, deuxième exemple, un prophète qui garde pour soi sa prophétie. Donc Dieu lui parle, mais il ne le dit pas.
Ben là, il a les contrats.
Là, c'est comme Yona. Là, c'est comme Yona. D'accord. Yona, Dieu lui a parlé, mais il a gardé ses prophéties. Il a gardé ses prophéties, il ne voulait pas le dire. C'est quoi le din? Chayav mita bidei shamayim. Il est chayav mita bidei shamayim, c'est-à-dire c'est Dieu qui s'occupera de qui? Du prophète. Ou bishloshtan nema anochi edrosh meimo. Et dans les trois cas, c'est-à-dire le cas qu'on vient de dire avant, c'est-à-dire le prophète qui dit quelque chose et qu'on l'écoute pas, ou bien le prophète qui transgresse ses propres paroles, ou bien le prophète qui ne diffuse pas sa prophétie. Dans les trois cas, on a dit que qu'est-ce qu'on dit dans ces trois cas? Que il est anochi et drosh memo, Dieu dit je m'occuperai personnellement de lui. Maintenant, vechen pareil. Et là ça va commencer à se corser. Im yomar lanu anavi. Si va nous dire un prophète, shenoda lanu shehu navi. Un prophète qu'on sait qu'il est prophète. Par exemple, comment on peut savoir qu'un prophète est prophète? Par exemple, il a prédit quelque chose, qui s'est passé? Oui. On sait que c'est un prophète.
Présomption que c'est
présomption.
Un prophète.
Bon. Shlavor alachat mikol mitzvot amurot batora. Donc s'il nous demande de transgresser une des mitzvot qui est écrite dans la Torah, ou al mitzvot arbe, ou même pas seulement une mitzvot, plusieurs mitzvot. Ben kalot, ben tramurot, peu importe que ce soit des mitzvot qui sont légères ou dures. D'accord? Par exemple, c'est ce qui est une mitzvah qui nous paraît légère ou une mitzvah qui nous paraît plus compliquée. Mais par contre, c'est quoi le process score? Parce que le prophète a demandé l'efi shara. Il a demandé uniquement d'annuler une mitzvah de manière temporaire.
D'accord. Ça c'est une précaution de Maïmonide.
Attention.
De dire ça.
D'accord. Non, c'est pas une précaution, mais il se base sur des. Dans ce cas-là, mitzvah lishmoalo, non seulement qu'on doit l'écouter, mais c'est une mitzvah de l'écouter. Par exemple, si un prophète vient, il dit, le mois suivant, il n'y a pas de Shabbat. Eh ben, on ne fait pas Shabbat. Dieu m'a dit, le mois suivant, tu leur dis, il n'y a plus
Mais
de
c'est un
Shabbat.
prophète
D'accord?
réputé.
C'est un prophète qu'on connaît.
D'accord.
Mais attention, pas que le prophète dit, dorénavant, il n'y aura plus le Shabbat. On a supprimé la mitzvah. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, la
Ouais.
mitzvah est toujours là, mais temporairement, on la supprime. Là, dans ce cas-là, on a une mitzvah de l'écouter. Et que ça complique les choses.
Mais qui va valider ça?
Quoi? Personne? C'est le
Qui va
prophète.
valider?
Et nous, on est obligé d'écouter.
Oui, mais nous, si le Bedini vient et dit non, on va pas
Mais comme,
l'écouter.
on peut pas. Si on sait que c'est un prophète, on est obligé de l'écouter. C'est qu'il a une force extraordinaire. Donc là, on découvre que même dans le religieux, il a une force extraordinaire, mais c'est une force qui est temporaire. Il n'a pas une force qui a un impact ad vitam aeternam. Par exemple, s'il dit,
Hachem, il a choisi de nous parler de cette
ah ben
façon-là, en
oui,
vérité.
ça veut dire que, bien sûr, ça veut dire que si par exemple le prophète il dit, pour les 20 prochaines années, il n'y a pas de Shabbat, on est obligé de l'écouter.
On peut manger du chazir à partir de maintenant jusqu'au 30 janvier.
Oui.
On doit manger, non, on va toujours
L'efficha,
manger.
l'efficha, oui, c'est mieux de l'écouter. Alors après, on va devoir rentrer dans les détails, parce que par exemple, s'il dit, bon, il n'y a plus de veille de Shabbat jusqu'en l'an 7000.
Oui, ça pose un problème.
Ben oui, c'est temporaire.
Non, mais tu avais dit une courte
Alors,
durée.
Maïmonide dit
Faut
d'ici,
pas rêver
ah
quand
oui,
même.
justement.
Mais à partir de maintenant, pour les 2 siècles à venir, on peut manger du chazir. Ça va.
Alors, c'est pour ça que Maïmonide il dit bien, il dit l'efficha. L'efficha, c'est-à-dire c'est de manière
Dans
temporaire.
l'heure.
Non, c'est pas dans l'heure, c'est temporaire. Après, bon. Après, encore une fois, là, le Bedin pourra se mêler pour déterminer qu'est-ce que ça veut dire temporaire. Et
D'accord.
attendez, faut exagérer non plus. Alors, Vechen, pareil. Vous avez, non, pardon, Vekar, vous avez dans les mots?
Ouais.
Vekar,
Ouais.
l'imdenu, Mechamim? Vekar, l'amadnu, Mechamim, et c'est ainsi qu'on a appris des premiers Chachamim. Mais piyachmoa, mais c'est quelque chose qui n'est pas écrit explicitement dans la Gemara. C'est quelque chose qu'on a appris, mais piyachmoa, c'est-à-dire de mettre en élève.
Tradition.
D'accord? Bakol, que dans tout, im yomar lecha anavi, avor al divrei Torah. Si le prophète te dit de transgresser sur quelque chose dans le Torah, quelque chose qui est dans le Torah,
Avoir.
qu'Eliaou bar à Carmel, comme l'histoire de Eliaou sur le
Oui,
mont
faire un
Carmel,
sacrifice sur le mont Carmel, c'est
qu'on va
interdit.
expliquer, Shmalo, écoute-le, Routz Mavodazara. Ah!
En
Attention, il y a une exception.
dehors de
Sauf la Vodazara. C'est que si un prophète nous dit, bon, je vous permets de faire la Vodazara pour une semaine, Dieu a dit, là on n'a pas le droit de l'écouter, même pour une seule seconde. C'est un ridouche qui dit aussi même lui. Véhou, chez Yé Adavar, les fichas, mais dis attention. Donc on va dire, ça veut dire que sur 612 mitzvot, on peut écouter un prophète, c'est ce qu'on vient de dire, oui. Maintenant, attention, il faut que ce soit temporaire. C'est de quoi temporaire? Kegon, par exemple, Eliaou, Béra Carmel. Eliaou sur le mont Carmel, chez Écrive Ola Bachout, qui a amené un sacrifice, un holocauste. Bachout, on était
En
à
dehors du
l'extérieur
temple.
du temple. Virushalayim Nifrara. Or, Jérusalem avait déjà été choisi. Et à ce moment-là, Véhamakriv Bachout, Chayav Karet. Celui qui amenait un sacrifice à l'extérieur, il est Chayav Karet. Et pourtant, on l'a écouté. Oui, Pnei Sheunavi, Mitzvah Lishmoalo, puisque c'est un prophète, on avait l'obligation de l'écouter. Et quand on dit qu'il faut écouter le prophète, on parle également de ça. C'est-à-dire, on ne parle pas seulement du politique, on parle également du religieux, mais à condition que ça soit temporaire. Ça, c'est quelque chose que Maïmonide dit, c'est quelque chose qui nous a été transmis par la tradition. Vous voyez que là, ça change beaucoup de choses. On est d'accord? Donc finalement, si on s'arrête jusqu'ici, quel pouvoir peut avoir une batkol, une voix qui sort du ciel? Si on résume ce qu'on a dit jusqu'à maintenant.
La vérité,
Un pouvoir politique sans
faire
limite.
pencher un plateau de balance qui est déjà à égalité.
Alors non, justement, non, mais là, Maïmonide a dit que. Qu'est-ce qu'a dit Maïmonide? Il a dit que finalement, quel pouvoir peut avoir une voix qui sort du ciel? Donc le prophète, qui représente une voix qui sort du
Confirmé.
ciel.
Le prophète,
D'accord?
c'est
Il peut
confirmé.
avoir, en politique, il peut avoir quel pouvoir? Il peut avoir un pouvoir illimité. On est d'accord?
Bien sûr.
Ben oui, par exemple, s'il nous dit, je vous donne l'ordre de changer de roi.
Mais ce roi-là, est-ce que le peuple l'a reconnu?
Ça change pas? Si donne l'ordre, dit, Dieu a dit que ce roi n'est pas bon, il faut changer de roi. On a une mesure de l'écouter, si on l'écoute pas, on est Chayav Mita B'Dechamayim.
Les promesses des prophètes qui ont mal fini. Hein. Ah oui.
Il y a des prophètes qui étaient des faux prophètes aussi.
Oui, je te parle de bons prophètes qui ont mal fini.
Ouais.
Ils ont eu beau faire.
D'accord? Donc là, ma question c'est quoi? C'est quel est le pouvoir d'un prophète en politique? Minatora. Le pouvoir d'un prophète en politique, Minatora,
Immense, en
c'est
mémoire.
immense, illimité. Ça, vous savez où on le retrouve
La
ça
parole
aujourd'hui?
de Dieu.
On le retrouve chez les... En Iran, tout ça. Chez eux, le
Ah.
prophète, c'est... prophète, il est plus fort qu'un prophète, il fait tomber un président.
Et comme les autres, ils se font passer pour les élus du prophète.
Oui, non mais un prophète chez
Donc.
eux, un prophète, comment on appelle ça? Comment ils appellent leur prophète là-bas? Enfin, pas leur prophète,
Je sais plus comment ils disent.
leur imam.
Ils disent qu'il a des dons. L'Avdil, c'est un peu comme nous quand on dit le rabbi, c'est un prophète, parce que. Mais lui, il n'a rien donné de. Il n'a rien dit, l'imam.
Oui, il a rien fait, on n'a rien eu.
Il n'a jamais prédit quoi que ce soit. Jamais. Ben oui.
Il plonge.
Oui, parce qu'il faut dire que là-bas, ceux qui ne veulent pas suivre ce prophète, entre guillemets, ben, c'est la peine de mort.
Comment il s'appelle?
C'est.
Ramanaï, comment il s'appelle? Non,
Je sais
Oumer
pas, il y
Khomeini.
en a un tous les 5 ans ou
Bon.
10 ans.
En tout cas, celui-là, eux, ils l'écoutent, ils peuvent faire tomber un président.
Sans problème.
Sans problème.
Ouais.
D'accord? Donc
Et
voilà.
nommer un président,
Et
la
nommer un
preuve.
président.
La preuve. S'il y a ce
Ouais.
président-là à son moment, c'est
Ouais.
parce que ces imams-là, ils l'ont mis.
Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'en politique, il a un pouvoir illimité, et en religion, il a un pouvoir qui est limité. C'est quoi son pouvoir en religion? En religion, il ne peut pas supprimer une mitzvah ou une avéra, mais il peut la mettre en pause temporairement. D'accord? Comme une sorte d'Elio Bar HaKarmel. Alors, écoutez bien ce que tu m'as dit. Il dit, Ve'ilou, je suis à la dernière petite ligne. Ve'ilou sha'alou et Eliyahu. Si on avait demandé à Eliyahu un avis, là, vous allez venir toujours dans les hypothèses. Si on avait demandé à Eliyahu un avis, Ve'amroulo, et on lui aurait dit, Ne'ekar ma shekaitu va Torah? D'accord? Il dit, ah, mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que maintenant est déraciné ce qui est écrit dans la Torah? Pen tsa'ale l'injonction de la Torah qui nous dit, attention, tu n'as pas le droit d'offrir tes sacrifices où tu veux. Si on avait demandé à Eliyahu un avis, est-ce que cette injonction a été supprimée? Qu'est-ce qu'aurait répondu Eliyahu un avis? Aya Omer, l'eau. Il aurait dit, non. Et là, Amakriv bachutz leolam chayav karet. Celui qui amène un sacrifice à l'extérieur du Beth Amikdash, il est toujours chayav karet. Comme Moshe Tziva Moshe, comme Moshe a venu ordonner, je ne peux pas changer. Aval, ani ayom, akriv bachutz. Moi, aujourd'hui, j'offrirai à l'extérieur, kidvar Hashem, comme Dieu me l'a ordonné, donc temporairement, kedel la chiste via Baal, pour contredire les prophètes du Baal.
Ça veut donc dire que quelque part, Mamoni nous dit, c'est un méprof, il nous dit que c'est pas son propre chef qu'il a décidé de faire toute cette cérémonie qui est à la limite du rigolo.
Oui, c'est
C'est
pas
qu'Hachem, il a dit, va le faire comme ça.
exactement, Kidvar Hashem, Yudkin.
Ouais.
C'est Dieu qui l'a ordonné. C'est-à-dire, c'est un message de Dieu. Mais ça veut dire, comme expliquera Maïmonide après, je sais pas si on le dira dans cette page, Maïmonide là-bas il explique, il dit que si le prophète, il dit que Dieu m'a dit que maintenant il faut supprimer le mitzvah, ça veut dire que c'est pas un prophète. Ça peut pas venir de Dieu.
Oui, c'est bien. Mais c'est un des
Des
cas
faux prophètes.
qui disqualifie, qui dit c'est donc un faux prophète.
Extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est persuadé que ça ne vient pas de Dieu. D'accord? Alors, Vechen, pareil. Alors, non, pardon, va à la Derechazot.
C'est l'histoire de Yona qui a vu par Roi HaKodesh que la ville ne serait pas détruite. Il s'est dit, ils vont me tuer.
Non, l'histoire de
Pour dire que je
Yona.
suis un faux prophète.
Oui, Yona, c'est qu'il a. Yona.
J'ai pas envie de mourir.
Yona, c'est qu'il a eu peur de. Je veux dire, il a eu. C'est autre chose. Yona, c'est qu'il voulait garder sa prophétie.
Oui, mais parce qu'il a vu ça.
Oui,
Il a
d'accord.
vu que ce ne serait pas détruit.
Ah bah oui.
Or, lui, il annonce, ça va être détruit, ça va être détruit. Il dit, ils vont me tuer.
Va la Derech Hazot, de cette manière, im tzivu kol anevim, la'avor le ficha, mitzvah lishmoalem. Donc de la même manière qu'on avait avec Eliyahu Navi, après on va dire, oui, mais Eliyahu Navi, tu comprends, c'était Eliyahu
C'est une
Navi.
voiture.
D'accord, on te dit pas du tout, ça marche pas comme ça. Eliyahu Navi, elle est pas à cette époque-là, on aurait pu le contredire aussi. Non. Nous, on connaît Eliyahu Navi, mais c'est pas parce que c'est Eliyahu Navi. Tous les prophètes qui nous disent de transgresser les fichas, une mitzvah, les fichas, c'est-à-dire temporairement, mitzvah lishmoalem, on a besoin de les écouter.
C'est Irmiaou qui est un jeune. Hein?
On l'écoute.
Bah.
On l'écoute, on est obligé de l'écouter.
Bon.
Ve'imamrou, sha'adavar ne'ekar le'olam. Mais s'ils disent que, d'un autre sens, c'est un paradoxe. Enfin, c'est pas un paradoxe, mais c'est assez paradoxal, on va dire. Si d'un côté, il te dit que de supprimer une mitzvah temporairement, tu dois l'écouter. Mais s'il te dit de supprimer la mitzvah entièrement, mitatam bechenek, il faut le tuer tout de suite par la strangulation.
Il paraît que c'est la plus pénible.
Ah. Bien sûr. Mais là, la... Et pas entre les deux. D'accord? Chénèque, c'est la strangulation, c'est d'ailleurs, c'est pour ça que quand on pend quelqu'un du préserve, on dit parce que c'est la mort dure le plus longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la personne sent il sent qu'elle est en train de mourir.
Bah, ça c'est la pendaison juive.
Oui.
La pendaison goy, elle est différente dans le sens où il y a des États qui pratiquent la trappe, c'est-à-dire on met le nœud autour du cou de la personne, il y a une trappe qui souffle sous ses pieds. En réalité, il tombe de 2 mètres environ, et le nœud d'un second, à part qu'il l'étouffe, il rompt, c'est libre ce que je raconte, mais il rompt les vertèbres
C'est horrible.
cervicales. Donc il peut même plus respirer parce que il a une rupture des.
Non, ça c'est pas. Non, non,
Tu vois?
là je parle. Non, là c'est quelqu'un qui.
Mais la pendaison, c'est effectivement. C'est comme la noyade. D'ailleurs, on dit que la noyade, c'est la forme de
Oui,
la.
Renek, bien sûr. Ouais.
C'est-à-dire qu'on
Parce
n'a
qu'on
plus
est
d'air.
parfaitement conscient de ce qui se passe.
Oui.
C'est pas quelque chose qui dure une fraction de seconde.
On dit que toutes les morts qu'il peut y avoir jusqu'à aujourd'hui, ce sont des reflets des quatre morts
Bien sûr.
de toutes.
Toutes les façons, par exemple, si on prend par exemple la mort par le glaive, ça c'est une mort qui dure une fraction de seconde. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, quand c'est au cou.
Ah oui, c'est au cou.
Oui, mais si quelqu'un il a été
Ah
percé
non, c'est au cou.
par un énorme bout de ferraille dans une voiture, Dieu nous préserve,
Oui.
et qu'il met 3 jours à mourir.
Non, là je parle de la mort de Renek,
Ah
je parle de
ouais.
la mort de Saïd.
Ça va encore.
Rapidos, hein. Donc,
Excusez-moi,
Shah
retard.
Torah, Amra, Lanou, Vanenu, Ad Olam. Puisque la Torah nous a dit que c'est valable Ad Olam jusqu'à jamais. C'est extraordinaire. Parce que la Torah a dit, Moshe Rabbeinu dit, la Torah que je vous donne, elle est Lanou, Ulvanenu, pour nous et pour nos enfants, Ad Olam, à jamais.
Et pourtant, il n'y a
Ça
pas
veut
des
dire
textes qui
quoi?
disent qu'il y aura une nouvelle Torah.
Voilà. Justement. C'est une autre question. Très bien. Torah Chadasha, mais dit. Vechen, pareil. Im akar, davar, mitvarim, shelamazo, et piashmoa. Si le prophète a déraciné une des choses qu'on a appris mipi hachmoua, ça veut dire comme ça. Le prophète veut dire, écoutez, moi je ne veux pas à l'encontre de ce qui est écrit dans la Torah, je vais à l'encontre de la manière comment les sages l'ont compris. Ah, c'est plus compliqué là.
Ouais, ça se corse.
Ah ben oui. Là, il dit, écoutez, voilà, je vous dis, les sages ils ont mal compris.
On n'a pas eu encore un Shabbat à
D'accord?
l'époque. On n'a pas eu de faux prophète
Ouais.
encore? À part
Si, si,
la
si, si, c'est déjà
compagne.
arrivé ça. Un prophète qui dit, ce que les rachamim ont compris, mipi hachmoua, ça veut dire par la tradition, ils ont mal compris.
Bon, donc là, il va
D'accord?
viser carrément le christianisme.
D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? O shamar, ou bien, Bedin midine Torah, chez Hachem Tivalo Shadin Karuva, la Plouni, écoutez bien, ou bien un prophète qui va dire dans un des dinim de la Torah, que Dieu lui a ordonné que le din est comme ça, et que la halakha est comme un tel. Hein, on revient à l'Oudmara là. Hein? Quel est le din? Arezé Navi Sheker. C'est un faux prophète, Veyechanek, et on doit donc le Yechanek, ça veut dire on doit donc le tuer. Ah, Falpi, Sha'asaot, et même s'il a fait un signe pour valider ce qu'il a dit. Sha'are, Baalei Achish Torah, puisqu'il est en train de contredire la Torah. Sha'amra, Lo Bashamayim, que la Torah dit que la Torah n'est pas dans le ciel.
Quand même une incidence très grave, hein.
D'accord? Là, il est très très clair. Ça veut dire que si maintenant il y a un prophète qui vient et qui te dit, il y a une marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, et moi je vous dis, la halakha elle est comme Rabbi Eliezer, quand ce qu'on le dit, même s'il amène un signe, des murs qui tombent, tout ce que tu veux.
C'est Rabbi Eliezer, on va rien lui faire, mais lui, on va
D'accord?
le zigouiller.
Non. Exactement. Rabbi Eliezer, c'est pas un prophète.
Oui. Lui, parce qu'il vient en tant que prophète, on le
Voilà.
zigouille.
Si il entend, même s'il a fait un signe, s'il dit le mur il va tomber, le mur tombe. D'accord? Qu'est-ce qu'on te dit? On doit le mettre à mort. Parce qu'on considère qu'il n'utilise plus les forces du bien, il utilise les forces du mal.
Mais il faut être capable de percevoir ça. Hein.
D'accord? Bah oui. Parce que
Parce que la foule, elle va voir seulement un miracle. Hein.
Maïmonide, il nous a donné les critères pour percevoir. C'est très
Ouais.
simple, c'est pas compliqué. Un prophète ne peut pas venir et dire la halakha est comme un tel ou la halakha est comme un tel. C'est impossible. Il ne peut pas te dire. Le prophète peut nous dire, par contre, aval, le ficha, chemin le bacol. Quand c'est temporaire, on l'écoute pour tout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si temporairement le prophète dit, écoutez, je ne sais pas si la halakha est comme Rabbi Eliezer ou comme Rabbi Yeshua, mais aujourd'hui, il faut écouter Rabbi Eliezer pour la semaine qui suit. Là, est-ce qu'on aurait dû l'écouter?
Là, il dit oui.
On aurait dû l'écouter. D'accord? Donc de là, on comprend quoi? De là, on comprend quoi? On comprend que finalement, on ne pouvait pas, finalement, on pouvait finalement, la voix qui est sortie du ciel n'avait aucun pouvoir dans une halakha. Extraordinaire.
C'était quand même grave. parce que on était entouré de musulmans à cette époque,
Oui.
Maïmonide était quelqu'un en vue,
Oui.
et qu'il avait plein d'ennemis du côté de ses concurrents musulmans, qui n'arrêtaient pas d'essayer de le faire saquer par Saladin, et tout ce qu'il pouvait dire, qui pouvait être
Faut se
interprété
retourner contre
contre
lui, c'est
l'islam,
sûr, ouais.
c'était grave, et puis il l'avait écrit en arabe, hein.
Oui, mais
Tu te rends compte?
ce qu'il y a de particulier avec non, ça le non, ça se fait écrire en arabe, ça. Mishneh Torah, non.
Le Mishneh Torah.
Non, c'est
Mais
l'Église
il y
de
a eu des
Dégâts.
traducteurs. Tout de suite, il y a eu des traducteurs.
Certainement, bien sûr, oui. C'est sûr. Mais là, ils visent pas l'islam, ils visent plutôt le christianisme. Parce que l'islam, ils sont pas venus dire la Torah des Juifs a changé. Vous comprenez?
Ils sont venus. C'est un autre truc, c'est
Un
plus
autre
grave
truc.
encore avec l'islam.
Non, c'est pas plus grave.
L'islam, il dit qu'on a falsifié, que c'est pas
D'accord,
nous,
mais ça, ils peuvent dire ce
que
qu'ils
c'est
veulent.
eux, entre guillemets, les
Mais
Juifs.
juridiquement, on peut rien leur faire. Parce que c'est pas des juifs, d'accord? Parce qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de dire quelqu'un a le droit d'inventer ce qu'il veut. On va pas empêcher les gens d'inventer. Juridiquement, on peut rien leur faire. Après, c'est les Cheshbonot de Dieu. Par contre, le christianisme, là, c'était un problème. Parce que c'est quelqu'un, c'est un juif qui est venu, qui a dit, ça y est, la Torah a changé.
Et pourtant, il n'a même pas dit ça, lui.
Oui, c'est pas lui,
Lui, il a dit un Yud ne sera pas changé.
c'est Paul, ouais.
C'est les autres
C'est Paul, ouais,
qui ont créé
forcément.
une nouvelle religion,
Lui, mais
littéralement.
oui, mais lui, il a
Ah
déposé,
bah,
lui, il a
lui, il a
déposé,
déposé le brevet.
non, lui, il a déposé les germes pour ça. C'est-à-dire qu'il leur a montré qu'on peut pomper des juifs et que ça peut changer. Non, lui, il l'a pas fait. C'est pour ça qu'il y a le Khalek et le Mabah. D'accord?
Ouais.
Donc, finalement, qu'est-ce qu'on comprend de ce Maïmonide ici? On comprend que, dans aucun cas, Dieu peut venir et dire la halakha comme un tel. Est-ce que ça nous pose une question, ça? Bien sûr, ça nous pose une question,
Ben oui,
puisqu'on vient.
puisqu'on était en train d'en parler
Alors
justement.
justement, qu'est-ce qu'on en a dit?
De quel
Dans
droit
la
cette loi?
Gemara, dans la première Gemara qu'on a eue dans le Perek Hazav, dans le Metzia, effectivement, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la halakha n'a pas été tranchée comme Rabbi Eliezer, on ne s'est pas basé sur cette voie du ciel. Mais dans la deuxième Gemara qu'on a amenée, dans la Marroquette de Beth Hillel et les Beth Shammai, qu'est-ce qu'a dit la voie du ciel? D'accord?
Que les deux, bon, mais Beth Hillel,
La halakha est comme aujourd'hui. Donc quelque
aujourd'hui,
part,
donc c'est pour un temps.
on s'est basé, ça change, non, ça pour un temps, non, non, ah non.
Aujourd'hui, ça veut donc dire que demain, ce sera
Ah non,
pour quelqu'un
ça
d'autre.
la voix n'a pas dit ça.
Apparemment, elle dit pour aujourd'hui, pourquoi elle a
Non,
rajouté le pour aujourd'hui?
personne n'a dit pour aujourd'hui, c'est le Harizal. Non, c'est le Harizal qui explique ça. Le Harizal, il dit, comment c'est possible de dire que les deux ont raison? Il dit, parce que comme Béchamedra, ce sera comme Béchamed. Mais la voix du ciel n'a pas dit ça. La voix du ciel a dit, Elou va Elou, divrei Elokim Chaim, les deux disent vrai, va à l'achak et Beth Hillel, mais la halakha est comme Beth Hillel. C'est tout. Ah, la quatrième ligne.
Il n'y a rien après.
Rien après, c'est tout.
Ouais, le
Après, la Gemara pose une question, etc. Mais ça y est, c'est un autre sujet.
D'accord.
D'accord?
Mais peut-être parce qu'elle est venue traiter. Cette bat colle, elle est venue. Attends. C'est toi qui as arrondi
Ah
ou c'est
non,
marqué
c'est marqué que...
que Beth Hillel a toujours raison?
J'ai pas arrondi, j'ai traduit ce qui est
Non, il
écrit.
y a écrit Beth Hillel a toujours raison?
Non, c'est pas écrit toujours ni pas toujours, c'est écrit les deux disent vrai, mais la halakha est comme Beth Hillel.
Bon, alors c'était peut-être pour le chat de ce
Pas du
moment-là,
tout, non,
qu'il y a une
non.
voix qui est venue
Mais
pour les
non.
éparchager là, à
Pas
ce moment-là.
du tout.
La preuve, on a pris quelques trucs de
Non,
Shamaï
non, non. Oui,
qu'on fait.
des choses que Beth Hillel
Alors.
ont acceptées. Parce que Beth Hillel ont accepté. Ah oui.
Donc.
Non. Parce que Beth Hillel ont accepté. Parce que Beth Hillel ont dit, sur ça, on est d'accord avec Shamaï. Donc on a accepté.
C'est pas qu'on est d'accord, c'est qu'il se trouve qu'on est du même avis, tu veux
Voilà.
dire.
Non, il se trouve que vous avez réussi à nous convaincre.
Ah, d'accord. Bah oui, mais normalement, Beth Hillel aurait dû dire qu'elle a dit qu'il faut qu'on a
Non.
toujours raison, donc
Mais la halakha est comme Beth Hillel, toujours.
oui.
Pourquoi on écoute Beth Shammai? Parce que Beth Hillel nous a dit maintenant écoutez Beth Shammai. D'accord?
Alors.
Alors. Donc là, a priori, on a une vraie question. Parce que là, a priori, Maïmonide ne comprend pas comme Tosfot. Vous comprenez ma question? Tosfot nous a dit que la bat kol peut avoir un rôle de rassurer, ou elle peut, quelque part, elle peut avoir un rôle déterminant dans une halakha.
Enfin, on est d'accord, mais
Attends,
le
attends,
Maïmonide, il est beaucoup plus proche de la prophétie que de la bat colle simple,
Non, mais ça change
qui
pas.
s'adresse aux hommes.
Ça change pas. C'est la même chose. S'il y a une voix qui sort du ciel, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'entende et un prophète qui nous la rapporte. Ça change pas, c'est la même chose. C'est le même principe.
Non, parce que dans le cas d'une bat colle, on est censé avoir beaucoup de gens qui l'entendent. Dans le cas du
Mais...
prophète, lui, il vient et dit, je suis prophète.
Non, dans le cas du prophète aussi. On peut avoir plusieurs personnes qui l'ont entendu. C'est pas un problème. des classiques, ça, dans le nar. Des fois, dans lesquels Dieu s'adresse à plusieurs prophètes en parallèle. Et que eux, les prophètes, vont nommer un responsable, un représentant pour aller parler au roi, etc. C'est des classiques, ça, dans le nar. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on va, par exemple, les Béné Hanévim, les enfants des prophètes dans le nar, qui reçoivent des messages et qui demandent, et qui ont peur d'aller le faire passer parce que bon, ils sont pas.
C'est cette notion d'école des prophètes
qui
nous est très étrangère. Une école de prophètes. Je comprends pas. Une pouponnière de prophètes, c'est
parce
bizarre.
Maïmonide explique dans le premier chapitre, dans la Torah, dans le 7e, pardon, 7e ou 8e. Il dit la chose suivante, il dit que comment ça marche la prophétie. Il dit, la prophétie, en vérité, tout le monde peut devenir prophète. Il faut s'imposer certaines restrictions, d'accord, il faut se séparer du monde, etc. Et après, il donne presque un mode d'emploi. Il dit avec le temps après, la personne va voir que Dieu va commencer, il va commencer à percevoir des signaux. Extraordinaire, c'est Maïmonide. Bon, enfin, ça, c'est notre résumé Maïmonide, si je vous montre.
Ouais, il y a carrément une tenue à un comportement. Mais il parle pas des ascèses des gens qui se mettent en.
Regardez.
Qui se coupent la communauté.
Voilà. Alors. C'est ici. Adam, donc il dit comme ça, il dit c'est quoi le prophète? Le prophète, la prophétie ne peut tomber seulement sur quelqu'un qui est un grand racham, qui est gibor bemidotav, c'est-à-dire qui arrive à se contrôler, et que son yetzarara ne peut pas être plus fort que lui sur aucune chose du monde. Il est toujours plus fort que son yetzarara. Et c'est quelqu'un qui doit avoir un esprit très large et très droit. Il dit une personne qui a toutes ses qualités et qui est parfait dans son corps, d'accord? Dès qu'il va étudier le pardès, c'est quoi pardès? Ça veut dire tout ce qui est maase merkava et toutes ces choses-là, d'accord? Et qu'il va essayer de s'intéresser aux choses qui le dépassent, d'accord? Et qu'il aura une bonne compréhension. Enfin, il y a beaucoup de critères quand même. Hein. Et qu'il donc il aura une bonne compréhension, c'est-à-dire qu'il va réussir à comprendre. Veu mit kadesh veoler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se sanctifier. Et plus il va aller, plus on va voir vraiment comment cette personne va augmenter en kdusha, d'accord? Et qu'il va s'intéresser. Il va s'intéresser que à la kdoucha, il va pas s'intéresser au plaisir du moment. D'accord? Cette personne-là, qu'est-ce qu'il dit Maïmonide? Il dit cette personne-là, Miyad, Ruach HaKodesh, sera à l'aise. Tout de suite, Ruach HaKodesh, elle va venir sur lui. Et il dit, quand on parle, justement, des Bnei Hanevi'im, ou bien quand on parle dans Shaoul, que Dieu a donné une injonction à Shaoul, il lui a dit, Veit nabitaïma, venez par ta l'Ishara. Tu lui dis, il faut que tu deviennes une nouvelle personne et que tu deviennes prophète. C'est-à-dire quoi?
Ashaoul.
Ça, c'est exactement ça. D'accord? C'est-à-dire que la prophétie, c'est pas forcément un cadeau du ciel. C'est pas un cadeau du ciel, mais c'est pas quelque chose qui... C'est pas comme les tzadikim. Un tzadik, c'est autre chose. Un rabbi, il naît rabbi. Là, on parle pas de ça, on parle de prophétie, de gens qui ont roi à Kodesh, de gens qui arrivent à communiquer avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Sadik. On est d'accord?
Qu'est-ce qu'on fait d'un Bilam?
Il a raison, mais Bilam, il n'était pas religieux.
C'est un prophète.
Non.
Des nations.
Mais c'est un prophète des nations. C'est parce que ça, c'est un phénomène que Dieu a créé une seule fois. D'accord?
Pourquoi?
Il a dit que c'est pas. Enfin, il a créé une seule fois pour ne pas que les goïms disent après, nous aussi, si on avait un prophète comme Moshe, on aurait. Et voilà, je vous ai donné rien, vous avez rien fait. Vous avez fait pire.
Et Yov?
Yov, il est pas des nations. C'est très particulier, Yov. Parce que Yov, il y en a qui le retracent déjà depuis l'époque de Paro. Depuis l'époque de Paro, le concept juif n'existait pas à cette époque-là.
Il paraît qu'il est dans cette paracha, Yov, dans les descendants de Esav et des machins. Il est là.
A priori, Yov, le premier endroit où on le retrouve, c'est chez Paro.
Il a vécu longtemps.
Il a vécu très longtemps. Je ne sais pas comment il a vécu. À savoir s'il n'est pas encore vivant. D'accord? Donc on a ici une question. On a ici une...
Encore vivant? Ah, Yov! Possible, après tout.
Possible s'il vieillit pas.
Si Elio Benavide est toujours là, hein.
Alors, j'étais en train de dire. Donc on a ici une question. C'est quoi la question? C'est quoi la question? C'est pas une question, c'est que, a priori, on a ici Maïmonide qui nous dit, je répète, la Gemara dans le traité Rouvine, dans la page numéro 8, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit qu'on s'est basé sur une batte colle pour dire que la halakha est comme Beth Hillel. Comment on a pu se baser? Tout ça, t'as répondu, il a dit oui, on peut se baser sur une batte colle. Pourquoi on peut se baser sur une batte colle? Parce que la batte colle a servi pour nous faire pencher la balance. Mais si on comprend bien ce que Maïmonide a dit, Maïmonide nous a dit qu'un prophète ne peut pas se mêler du tout de la halakha. Ce qu'il vient de dire, Maïmonide, dit que le prophète ne peut pas du tout se mêler. Et que s'il se mêle, qu'est-ce qu'on fait avec lui? On le met à mort.
On dégouille. Sauf s'il lui fait une entorse
temporaire. Mais c'est pas le cas.
Mais c'est quoi temporaire?
Mais c'est pas le cas ici.
C'est un jour, un mois.
Non, non,
un
temporaire, c'est temporaire. Temporaire, c'est temporaire. Ça veut
bon,
dire.
Ça, c'est ce qu'il dit lui.
Non.
Maïmonide.
Attendez, oui.
C'est son commentaire.
Donc, a priori, selon Maïmonide, on aimerait comprendre comment il comprend, comment il explique cette Gemara de Hérouvine qui a dit qu'on s'est basé sur une batte colle pour dire que la halakha est comme Beth Hillel.
D'accord.
D'accord? Alors, on va lire cette question dans le Kesef Mishneh. Aval Kaché, vous avez en souligné? C'est souligné.
Ça là?
Non, là, Kesef Mishneh.
Ah, pardon.
D'accord? Aval Kaché, mais c'est une question. Kaché lui, j'ai une question. C'est quoi la question qu'il a? Damad, Damrin, un opéra camadé, il va mort. Ah, ils ont tous dormi aujourd'hui, hein.
Oh là là.
Alors. Oh, okay. On est là. Damrin, un opéra camadé, tous, ils ont tous dormi ce matin. Ce matin, il y avait Miliane tout juste.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais pas. Damrin, un opéra camadé, il va mort. Dis, j'ai une question parce que c'est écrit dans le premier périque de Ivamot. De Yat, Sabat Kol, Dalacha, qui bâtit, qu'il y a une voix qui est sortie qui a dit que Dalacha est comme Batilel. Vekaimalan achi bechol durta. Or, on sait que la halakha est toujours comme Beth Hillel. On s'est basé sur quoi pour dire que la halakha est comme Beth Hillel?
Sur cette batte colle.
Sur cette batte colle. Veatosfot sham, beperek azav, ou beperek azav, natnutam le davar dit. Le Tosfot, il a répondu à la question. Veeinole, kefitad rabbenu. Mais ce que Tosfot dit ne correspond pas à Rabbenu. C'est qui Rabbenu? Le Rambam.
Oui.
Parce que Tosfot a dit qu'une batte colle peut avoir un rôle déterminant dans la halakha, à condition que on était déjà presque fixé. Mais si on suit ce que Maïmonide a dit, Maïmonide a dit qu'une batte colle, une voix qui sort du ciel, ne peut avoir aucune incidence sur la halakha. Comment on peut comprendre? Et il reste avec Tsarich Iyun. Tsarich Iyun, ça veut dire, il dit, il faut chercher la réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse.
Ah, ça reste ouvert.
Ça reste ouvert.
Avis aux postulants. Avis aux avis.
D'accord?
Bon.
Parce qu'il dit, Tosfot a posé la question, il a répondu à la question, mais si on suit ce que Maïmonide a dit, la réponse de ça ne tient pas debout, parce que selon ce que Maïmonide a dit, une batte colle ne peut avoir aucune incidence éternelle sur la halakha. C'est le cas? Voilà, c'est qui a fixé que la halakha est comme Beth Hillel? C'est une batte colle? Alors comment expliquer ce que Maïmonide a dit? Tsarich Iyun, c'est-à-dire il faut comprendre. Bon, peut-être que quand Machiach reviendra, Maïmonide nous expliquera ce qu'il voulait dire. En tout cas, pour l'instant, on a une question qui est restée en suspens.
Tekou alors.
D'accord? Bon. Pas un tekou, c'est qu'on n'a pas compris. D'accord? Alors, on a ici. Donc on a ici une chita, d'accord. Donc si on analyse bien la chita du Rambam du Maïmonide, c'est qu'il dit qu'un prophète ne peut jamais dire une halakha en se basant sur la névoie. C'est ce qu'on vient d'expliquer. La prophétie ne peut jamais, même une voix du ciel, ne peut jamais nous dire la halakha est comme un tel. Jamais. Même si on est presque fixé. Jamais. D'ailleurs, on a une question avec la Gemara d'un Rouvin. Bon, on a une question. Mais en tout cas, c'est ce que Maïmonide a dit.
D'accord.
Pourquoi Maïmonide a dit ça? Alors, quelques années plus tard, c'était expliqué par le Ran, Rabbeinu Nissim. D'accord? Quelques dizaines d'années plus tard, par Rabbeinu Nissim, le Ran va expliquer ça dans il y a un livre qui s'appelle Drashot Aran. Les Drashot du Ran. Il a fait un livre dans lequel il a écrit quelques Drashot. Bon. Et dans ce livre-là, Drashot Aran, dans la cinquième Drasha, il dit la chose suivante. Il va expliquer Maïmonide. Enfin, sans le citer explicitement, mais il va expliquer ce que Maïmonide veut dire, hein, quand on dit qu'un prophète ne peut avoir aucune incidence sur la halakha. Pour expliquer ça, il va expliquer à quoi sert un prophète. Vous voyez ce que je veux dire?
D'accord.
Et donc, du coup, il explique que le prophète, la manière comment est conçu le concept de la prophétie, c'est qu'on comprend tout de suite que le prophète ne peut avoir aucune incidence sur la halakha. Alors, il dit, Gvar Amrou Bevama Metia, donc en bas, Gvar Amrou Bevama Metia, Benin Rabbi Elézav Rabbi Yeshua, Amad Rabbi Elézav Ragav, Amar Lo Bashamaimi. D'accord? Donc il dit, on a déjà appris, dans Bevama Metia, que Rabbi, exactement ce qu'on a vu, d'accord, que Rabbi Eliezer a fait une preuve du ciel, et que Rabbi Yeshua a dit, la Torah n'est pas dans le ciel. Alors il dit, Maï, lo bashamayim i. Ça veut dire quoi que la Torah n'est pas dans le ciel? Kvar nitna lanu, natna lanu moshal arsinaï. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu nous a déjà donné la Torah sur le mont Sinaï, Vekatouva, et dans cette Torah c'est écrit, Acharei Rabim Lehatot, faut suivre la majorité. Très bien. Donc puisque la Torah nous a dit qu'il faut suivre la majorité, on ne peut plus accepter, comme on a expliqué, on ne peut plus accepter aucune, d'accord, aucune voix qui sort du ciel qui nous dira le contraire. Alors il dit, le Ran, il dit comme ça, il dit, Vea Pirouche et Slihu. Et l'explication chez moi, elle est comme ça. Enfin,
Donc il va prendre une position.
Voilà, c'est-à-dire qu'il va prendre une position. Il va essayer d'expliquer ce que veut dire la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi un prophète ne peut pas, avoir aucune incidence sur la halakha? Il dit comme ça. Il dit, Ki hacham yatir sfekot à Torah. Le rôle du Chacham, c'est de délier les doutes de la Torah. Shehu yesod hakol. D'accord? Le Chacham, en vérité, c'est la base de tout. Puisque c'est lui qui va nous permettre de comprendre ce que la Torah voulait dire. Veishama elav anavi be'al kocho. Et c'est au prophète d'écouter le Chacham, pas le contraire. Ve'im anavi yair le Chacham davar de Mishpata Torah. Et si le prophète va faire une note au Chacham, de quoi que ce soit, dans les Mishpatim de la Torah, c'est-à-dire dans les lois de la Torah, pas il lui dit il faut aller dans telle ville, pas aller dans telle ville. Il va commencer à rentrer dans la cour des grands, en d'autres termes, ce qui veut dire ici, dans la cour des Rachamim. Shiyeviyehu mitzad nevuato. Et que, il amène pas un argument halakhique qui est basé sur la logique, il amène un argument qui est basé sur sa prophétie. Lo ishama elasklal. On n'a pas le droit de l'écouter du tout. Iné. Raoukoula me dit, analysez cette histoire de la Gemara Bavamitia. Tout le monde a vu. Chez Rabbi Eliezer, maskim elahem et adiotarmehem. C'était évident dans cette histoire que Rabbi Eliezer s'approchait plus de la vérité que tout le monde. Ces signes-là, ils ne sont pas venus de nulle part. D'accord? C'est évident. C'est-à-dire, le Ran, il dit comme ça, il dit, pour moi, c'est évident que Rabbi Eliezer était plus près de la vérité. Prends la paix, écoutez. Parce que, vechiototav, koulamamitim vetsotki, mais que tous ces signes étaient des vrais signes. Des signes qui étaient justes. On l'a pas tué, c'est shalom. Vechriou minashamem kidvara, avec même du ciel on a tranché comme ses paroles. Et que c'est pas, encore une fois, c'est pas Rabbi Eliezer est venu dire je suis un prophète et moi je vais vous dire qu'on m'a dit dans le siècle la verra comme moi.
Non, il a cherché seulement un témoignage.
Oui.
Parce que lui il est rachat.
Mais qui a entendu ce témoignage? Tout le monde!
C'est concurrent.
Donc finalement tout le monde est devenu prophète à ce moment-là.
Est-ce que écouter une bat-colle, c'est une prophétie?
Bien sûr! C'est une prophétie. Un bat-colle, c'est une prophétie. Ve'apal piken est quand même. Asuma c'est kaskamatam. Ils ont quand même fait à leur tête. Pourquoi? Shachar shesichlam noté l'étamé. Parce que puisque avec leur cerveau, ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait rendre impur le sort du four. Afal pi shayudim shayumaskimin les fermina emet. Bien qu'ils savaient que leur cerveau a priori va à l'encontre de la vérité qui est venue du ciel. L'aura sous les terres, ils n'ont pas voulu purifier. Parce qu'ils ont dit, Dieu nous a demandé d'utiliser notre cerveau nous dit comme ça, même si on a des preuves que peut-être notre cerveau se trompe, puisque notre cerveau dit comme ça et qu'on est la majorité, on est obligé de nous écouter à nous-mêmes. Sinon on ira à l'encontre de la Torah. Vous savez comment il retourne ça, l'Oran?
Ouais.
D'accord? Donc, Ve'ayu ovri, maldivin et Torah, et ma'yu et ta'arim. S'ils avaient purifié, d'accord? Il serait allé contre la Torah. Extraordinaire. Vous voyez le paradoxe, là? D'un côté, vous avez une voix du ciel qui vous dit, et tout le monde, eux, ils l'ont entendu, ils savent que c'est une vraie voix, et que la vérité, apparemment, c'est comme Rabbi Eliezer. Mais leur cerveau leur dit, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça qu'il faut dire. Ils sont obligés de mettre de côté la voix, et d'écouter leur sechel. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui leur a demandé de se baser sur leur sechel.
Et la majorité du
d'accord. Et donc, la majorité du Sechel. On doit se mettre sur la majorité des Sechel. Donc, le Navi doit écouter le Chacham. Si un Navi dit...
J'ai déjà entendu que le Chacham l'emportait sur le Navi.
Ah oui.
C'est un vieux truc.
C'est un vieux truc. Chacham a dit le Navi. Non, mais là, l'approche du Rabbi Nunissim, vous voyez comment il dit que quelque part, les Chachamim...
Viens nous expliquer pourquoi.
Non, mais ça veut dire
qu'ils nous... Nous, on doit percevoir
comme ça. Ça veut dire qu'il nous raconte ce qui s'est passé, c'est que finalement, les Chachamim, là-bas, dans cette histoire, ont dû faire un effort sur eux-mêmes, un travail sur eux-mêmes, pour ne pas écouter la voix du ciel.
Ils pensaient qu'ils se seraient reniés eux-mêmes.
C'est extraordinaire.
Mais ça tient plus.
Ils ont dû faire un travail sur eux-mêmes, pour ne pas écouter cette voix du ciel.
Ça se trouve, ils étaient même d'accord.
Oui, ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord que le ciel est d'accord avec lui.
Ouais.
Mais, ils ont dit, étant donné que notre Sechel n'est pas d'accord avec ça, et que la Torah nous demande de suivre notre Sechel, et donc la majorité des Sechel, donc si on est 10 personnes, dans la majorité des Sechel, on est obligé de s'écouter. Ouais. Vous imaginez le dilemme qu'il y a dans leur tête. C'est-à-dire, c'est pas une question de kavod ici.
Mais alors, c'est dû à quoi, ça?
Quoi?
C'est dû que c'est Rabbi Eliezer qui n'a pas été assez convaincant, et il est parti chercher une bacole.
Peut-être.
Ou bien,
Non, c'est dû au fait qu'il
avait des manières... Qui avait raison à la fin de la fin? Rabbi Nitzkim. Il vient dire c'est Rabbi Eliezer qui avait raison.
Oui.
Alors c'est quoi?
Il a raison.
Dans qui a gagné?
Il a raison.
La vérité.
Il a raison dans l'absolu. Mais encore une fois, peut-être que c'était pas le moment pour ça. Comme ce que j'ai expliqué pour Benjamin Bettilel. Dans l'absolu, c'est vrai, mais dans la réalité du monde, c'était pas bon. Ça passait pas. D'accord. Kevin Shachaa. Regardez la dernière ligne. Shachaa nimsera lechachme adorot. Le pouvoir de trancher a été donné aux sages de la génération. Va Asher Yaskimuhem. Et la conclusion à laquelle ils arriveront, Hu Asher Tibahu Hashem Itbarer, ça sera ce que Dieu a ordonné. Ouais, il est. Passe pas par mille chemins. Hein.
Point.
Point. Là, on comprend ce que Maïmonide voulait dire. Vous voyez comment en quelques lignes il a réussi à nous expliquer. Là, maintenant, on comprend bien ce que Maïmonide voulait dire. Qu'est-ce que Maïmonide voulait dire? Maïmonide voulait expliquer que c'est pas parce que Chas v'Shalom on fait pas confiance à un prophète. C'est parce que, dans le concept, un prophète n'est pas là pour faire une halakha. La halakha peut être fixée uniquement par le sechel. C'est quelque chose que Dieu a demandé que ce soit quelque chose qui soit fixé par le sechel. Par contre, le Navi peut demander que temporairement, il peut donner un ordre au Haram. Il peut lui dire, écoutez, vous avez raison, mais temporairement, Dieu a dit que maintenant, la halakha doit changer. Pour une semaine, pour deux semaines. Comme l'histoire de Lio Navi, comme on a amené l'exemple. Bah, ça, il peut. Et si le Chacham ne l'écoute pas, le Chacham sera Chaim Mitabi des Shamaïm. Parce que c'est temporaire. Mais si c'est pas temporaire, d'accord, c'est une preuve selon Maïmonide que c'est un faux prophète.
Ça, c'est ce qu'on appelle les perles du judaïsme pharisien, des Perushimi.
Ah non, attendez. Mais là, le Rambam et le Ran, ils se sont basés sur la Gemara.
Oui, donc c'est une victoire des
pharisiens.
Oui, parce que ce judaïsme-là, trois siècles avant, il n'existait pas.
Alors, à mon avis, c'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça, en vérité, cette approche-là, on la retrouve dans la Gemara. Alors, dans la Gemara.
Ça, c'est où, ça?
Cette approche, ça c'est Maïmonide.
Oui, oui. Mais
ça, c'est Maïmonide. Le Ran, c'est
oui. Après, oui. Oui, le Ran, c'est bien après, bien...
Pas bien, quelques dizaines d'années après. Rabbeinu Nissim.
Oui.
Alors, c'est quoi ma question? Là, ce qu'on voit, déjà depuis l'époque de la Gemara, mais c'est une mise au point, mais finalement, quand on réfléchit, on voit que c'était déjà écrit dans la Gemara.
Oui.
Et on voit que la manière de réfléchir de la Gemara, c'est qu'on se base principalement sur le cerveau.
Ouais.
D'accord? On est d'accord? C'est vraiment un grand classique de la Gemara, ça.
Ouais.
Quand on comprend pas quelque chose, on le dit. Et haut et fort. Et on n'a pas peur même de déraciner une Mishnah. S'il faut, on n'a pas peur de dire que la Mishnah a mal été transmise, donc il y a un problème. On change des mots d'une Mishnah. Vous voyez ce que je veux dire? La Gemara n'a pas peur même de changer des mots du Mishnah.
De si dire c'est pas ça qui est écrit, mais ça.
C'est pas ça qui est écrit, c'est ça. On est sûr. Pourquoi? Parce que notre cerveau nous le dit. D'accord? On n'a pas peur. Ça, Laura nous explique brillamment pourquoi. Là, c'est une dracha. On aurait bien aimé être dans cette drachote. Hein. Ça, c'est 5 lignes d'une dracha. Alors, je sais pas si c'est les drachotes qu'il a fait ou c'est les drachotes qu'il a écrit, je sais
Dis-moi,
pas.
C'est ces Guéonim là qui nous ont donné ensuite un Shulchan Aruch.
Ben bien sûr. D'accord.
Il n'est pas venu comme ça.
Parce que il nous a donné, justement, ils nous ont donné les yesodot, les bases, qu'ils nous disent, peu importe la génération dans laquelle vous vous trouvez, les Chachamim, on vous donne l'obligation d'utiliser votre cerveau. Utilisez votre cerveau. Et la réponse de Dieu se trouvera dans votre cerveau. Dieu veut que vous utilisiez votre cerveau. Ce que vous déciderez, c'est la conclusion que Kadosh Baruch Hu veut. D'accord. Allez, on s'arrête là, monsieur Bismuth. Non, vous inquiétez pas, ça bouge pas.
Non, mais où je l'avais mis?
Vous cherchez quoi?
Ah, ma veste, elle est là. Alors.
D'accord. Je pense que la ligne la plus forte, la ligne la plus forte de ce qu'on a pu étudier aujourd'hui, c'est la dernière ligne du
Gemara Midi.
Il dit que ce que le Racham dira avec son cerveau sera ce que Dieu a ordonné. Extraordinaire. Et encore une fois, il rentre pas dans un jeu de dire certainement que Dieu va envoyer au Chacham par prophétie, etc., la bonne parole. Bon, ça on rentre un peu dans la Kabbalah, là. Il rentre pas du tout dedans, il dit non. Il dit Dieu a demandé de suivre le Sechel, donc ce que le Sechel dira sera ce que Dieu ordonne.
Alors, ça veut dire qu'il y a une incidence assez incroyable, c'est que donc le Sechel des Chachamim, Hachem, il parle à travers.
Non, ce que je viens de vous dire. Il n'est pas du tout rentré, ce que je viens de vous dire, je viens de vous dire le contraire. Il n'est pas du
tout. Oui, mais dans un premier
il n'est pas du tout rentré dans ça, le
Mais rage. Là, le Pshat nous dit non. bien que les paroles des Chachamim.
Pas du tout. C'est parce que le grand classique, c'est quoi hein? C'est l'histoire de Rabbi Eliezer et des Chachamim. Que les Chachamim, ils ont entendu cette voix du ciel. Donc s'il y avait un message à prendre du ciel, ils l'avaient le message du ciel. Le message du ciel, qu'est-ce qu'il leur disait? Ah, la Chachamim Rabbi Eliezer. Et pourtant, ils n'ont pas écouté ce message. Pourquoi ils n'ont pas écouté? Pas parce qu'ils sont révoltés. Parce que Dieu leur a dit, n'écoutez aucun message, écoutez que votre
bon, d'accord.
cerveau.
D'accord, quand il dit, la voix, il y a une voix qui dit, mes enfants m'ont vaincu.
Oui.
D'accord.
Oui, oui.
Avec
quoi?
C'est une réjouissance d'abord.
Oui, mais bien sûr. Mais mes enfants m'ont vaincu avec quoi? Avec leur cerveau.
Oui.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Bon, mais le cerveau...
C'est exactement le contraire de ce que vous venez de dire. Excusez-moi, deux secondes. Vous venez de dire, oui, ça veut dire que Dieu parle au Chacham.
Non, pas qui parle.
Qui met le bon message dans l'état
ça
du Chacham.
Ça veut dire qu'il met son shining dans le...
Pas
le,
du tout. Le... Pas du tout. Parce que là, le shining, comme vous voulez, pour employer ce terme, le shining, ils l'ont eu ici, les Chachamim. Le shining, il leur disait, écoutez Rabbi Eliezer. C'est pas Rabbi Eliezer qui est venu faire une prophétie. C'est une voix qui a été entendue par tout le monde. Tout le monde a entendu, écoutez Rabbi Eliezer. La voix, qu'est-ce qu'avait dit la voix? Qu'est-ce que vous voulez de Rabbi Eliezer? La halakha est toujours comme lui. Donc le shining, qu'est-ce qu'il leur disait? La halakha est comme Rabbi Eliezer.
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle a à l'encontre de cette prophétie?
Quand je parle de shining,
deux secondes.
C'est la science.
Qu'est-ce qu'elle a à l'encontre de cette prophétie? C'est leur sechel, leur cerveau. Et ils étaient obligés, c'était un combat pour eux, ils étaient obligés d'écouter leur cerveau parce que Dieu leur a demandé, ne vous basez sur personne, basez-vous que sur votre cerveau. Basez-vous sur votre cerveau pour comprendre la loi. Ils étaient obligés d'écouter. Ils ont dû combattre cette voix et ils étaient obligés d'écouter.
D'accord.
Ça c'est la conclusion de Rabbi Lomissim.
Après c'est quoi?
Prenons encore d'autres références de la Gemara. Toujours sur le même sujet. Sur,
ah oui.
Est-ce qu'on va amener des exemples dans les Gemarot suivantes? On aura la Gemara Megillah, la Gemara Souka, la Gemara Tmura.
Ouais,
après la quatrième page, ce sera Rabbi Chaim Vital.
Wow.
Et après, bon, vous verrez, après ce sera. Dans la quatrième page, je vous ai mis le. Shelot Tshuvot Min HaShamayim. Extraordinaire. Avec le Rida, etc. Parce que, comme j'ai expliqué la semaine dernière, ça, en vérité, ça a des implications à la règle jusqu'aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a une marloquette, quand vous avez les poskim qui vont à l'encontre de, quand vous avez, pardon, le Zohar qui va à l'encontre des poskim. C'est des grands classiques, ça. Il y a des choses que le Zohar vous a inventées. Par exemple, le Zohar a inventé, Simchat Torah. Ça n'existe pas, la Gemara dans la Gemara, dans la Gemara. Dans le sac, la Torah, Simchat Torah, c'est pas écrit, ça n'existe pas. C'est pas écrit. C'est pas de trace.
C'est même pas une mitzvah.
Il n'y a pas de trace. Vous cherchez Simchat Torah dans la Torah dans la Gemara, vous ne trouvez pas une seule trace, il n'y a pas. C'est le Zohar. Bon, ça à la limite, ça ne nous dérange pas. C'est un minhag qui ne va pas à l'encontre de quoi que ce soit. Mais il y a des fois dans lesquelles le Zohar va à l'encontre des poskim. Et décisionnaires. Alors pas à l'encontre de la Gemara, mais à l'encontre des décisionnaires.
Il y en a très peu qu'on a accepté. On en a accepté une ou deux, je crois.
On en a accepté. Dans la majorité des cas, on accepte le Zohar. On aura des exemples la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Par exemple, quand vous faites votre Amida, vous vous entendez ou pas?
Je vais te dire, quand je prie...
Seul, oui ou non?
Non, c'est pas ça. Quand je prie...
Non, à la synagogue.
Chez moi, à la synagogue, je m'entends pas.
Eh ben, d'après les
post-kim...
D'après les post-kim, il faut s'entendre. Et après le Zohar, il ne faut pas s'entendre. Faites quoi?
Oui, mais pourquoi il a dit ça, le Zohar?
Non, mais pas du tout. Le Zohar, parce que le Zohar a trouvé un sens ésotérique à ça. Ah. Parce que le fait de ne pas s'entendre, ça veut dire que c'est la Neshama qui parle avec Dieu et que c'est pas le corps, etc., etc., etc. D'accord? Et pourtant, c'est comme ça que tout le monde fait. Donc on a accepté le Zohar, mais le Zohar ne s'est pas basé sur un argument halakhique. Il n'a pas dit, je pense qu'il faut faire comme ça parce que Alpi Halakha, c'est comme ça, comme ça. Il a dit, non, c'est comme ça.
Mais attends, mais
attendez.
Le jour de juste, il y a les deux écoles.
Oui, il y a les deux écoles, mais la majorité suit le Zohar sur ça, en tout cas. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le Zohar...
Je n'ai plus concentré lorsqu'on on s'entend. Parce que quand je suis tout seul... Je fais mieux quand je m'entends.
Quand on est seul, parce qu'à l'émission, on n'aura pas envie de déranger.
Alors, est-ce que peut le faire
Ça ne change pas. Là, c'est où tu le fais pas.
Non.
Alors voilà.
Pourquoi?
Alors, seconde.
C'est pour pas déranger mon voisin.
Ah, mais non, ça ne change pas. Le poskim te dit, t'es obligé de le faire. C'est obligé.
Si moi je peux crier, on est obligé de chuchoter.
Alors, justement, mais pourtant, dans toutes les communautés de parades, etc., on ne fait pas attention à ça. Pourquoi? Parce que justement, c'est que le Zohar ne vient pas te dire. Le Zohar ne va pas venir te dire, écoutez-moi, la halakha est comme ça, et je vous explique pourquoi. Voilà, parce que tel.
Ah ouais, il vient, il te balance une info.
Il balance une info, il dit, voilà, tu sais, on dit, c'est comme ça. On l'a accepté. Alors, on verra justement.
Cette info est écrite quand? Parce que le Zohar, on sait que c'est Shimon Bar Yochai, mais elle a été écrite quand, appliquée quand?
1000 ans. Il y a 1000 ans.
Elle a été écrite, bon, peu importe quand elle a été écrite. Elle a été compilée.
Elle a été compilée et...
Voilà, non, compilée, c'est récent. C'est récent, c'est dans les 2-3 derniers siècles. Compilée. Mais écrit...
Non, compilée, non. Ce que j'entends par écrit, c'est adopté. Adopté, c'est ça que je voulais dire. Adopté, c'est-à-dire qu'avant que le Zohar n'a été adopté par tout le monde faisait suivant les post-kim.
Il y a des gens adoptés par tout
le monde. Celui qui n'accepte pas le Zohar n'accepte pas Shulchan Aruch. Parce qu'il y a beaucoup d'alakhot dans Shulchan Aruch qui sont basés explicitement sur le Zohar.
Donc il a été.
Donc voilà, par exemple la kafatim, enfin des tas d'exemples comme ça. Hein. Ils sont basés sur le Zohar.
Il a été accepté, il a été admis quand, c'est-à-dire quand je dis écrit, c'est pas tant qu'il soit écrit, on savait Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais donc jusqu'à une certaine époque, les gens ne faisaient pas comme le Zohar. À quel moment les gens se sont mis à faire comme le Zohar?
C'est que pendant beaucoup de temps, le Zohar n'était pas compilé. Le Zohar, c'était des bris par-ci par-là.
Donc les gens ne connaissaient
pas. Les gens ne connaissaient pas, oui.
Voilà. Et à quel moment ils sont plus? Il y a 200 ans à peu près que les gens.
Ah non, plus. Il y a bien 500-600 ans.
500 ans. D'accord.
Mais il a été compilé par les imprimeurs, c'est dernièrement, sur l'ordre de la paracha, etc. Bon, ça s'est compilé. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que cette question qu'on est en train de poser ici, Maïmonide et Laura nous ont dit a priori quelque chose de très clair. Ils nous ont dit, le Chacham, c'est ce qu'il y a de plus fort. Le Sechel du Chacham, c'est ce qu'il y a de plus fort. Personne ne peut venir lui dire le contraire. Alors on verra après que c'est pas si simple. Que le Zohar peut contredire, ne peut pas contredire la Gemara, mais le Zohar peut contredire des post-kim, des décisionnaires. On verra après. C'est le Chida qui va en parler. On verra après. Mais en tout cas, si on comprend bien ce que Maïmonide a dit, c'est extraordinaire. Il a dit que Akadosh Baruch Hu a donné un pouvoir au Sechel du Chacham qui lui a dit « Ce que tu diras sera la loi. » Et même si tu t'es trompé, comme ici, même si ton Sechel s'est trompé, comme ici, parce que les Chachamim, la voix du Sechel leur disait « Arrêtez, la halakha est comme Rabbi Eliezer. » Étant donné que leur Sechel continuait à les persuader que la halakha ils n'étaient pas comme Rabbi Eliezer, et bien ils étaient obligés d'accepter leur sécheresse. Ça, c'est ce que dit l'oral. Bon, continuez à présenter la chaîne prochaine. Extraordinaire, ça, quand même.